le midi.
C'est 2 degrés sur Québec. Est-ce qu'il pleut dans votre secteur? Est-ce qu'il neige chez nous à Québec, dans le secteur de Val-Bélair? On a eu une bonne grosse bordée de neige. Le déneigeur est passé. C'est fait. La première, on l'a eu. Ça s'est bien passé.
Ouais, c'était pas nécessairement facile sur le réseau routier ce matin. Yannick Laurentienne, il y a quelqu'un qui s'est planté solide dans l'arrière de la voiture de la personne qui suivait. Là.
Hier, dans le parc, c'était hallucinant. Des gens qui se sont quand même risqués avec leurs pneus d'été qui ont pris le clou. Mais ça arrive à chaque année. Les remorqueurs en ont plein leurs bras. Là. Puis, en même temps, c'est pas le job des remorqueurs de faire la morale aux gens qui deviennent leurs clients. Là.
Mais non. Mais à un moment donné, sauf que tu y penses, là. Moi, hier, j'avais un peu de route à faire. J'y pensais, là. J'étais encore plus vigilante qu'à l'habitude en me disant qui ne devrait pas être sur les réseaux routiers en ce moment? Puis juste dire que l'incident du côté de boulevard Le Bourgneuf, direction nord, c'était partiellement entravé pendant un bout. Là. Ça avait de la difficulté à circuler comme il se doit. C'était
All right! 418-971-101, si vous voyez quoi que ce soit sur la route, les amis, merci de nous en informer. Vous êtes nos yeux, nos oreilles. Et les chroniqueuses au soleil, son nom, c'est Valérie Godreau. Salut Valérie!
Hey, salut Yannick! Bon. Salut Pascal!
Salut!
T'es en forme?
Oui, très en forme.
Je parlais avec Denis tantôt, des fois, à quel point les citoyens sont un peu tannés de se faire prendre de l'argent au municipal, au provincial, au fédéral. Puis, une fois de temps en temps, de se lâcher là sur les réseaux sociaux en insultant. C'est pas le meilleur moyen, mais pour certains, ça leur fait du bien. C'est leur seul moyen de se faire entendre pour eux. Je disais que je comprenais un peu, malgré le fait que la violence ne sera jamais justifiée là, dans ces cas-là. Puis, Denis disait, ouais, ben c'est parce que c'est peut-être pour ça, justement, qu'il y a des bons politiciens qui pourraient l'être puis qui se présentent pas parce qu'il y a trop de violence.
Ah. Ben, c'est un grand enjeu, ça. Il a tout à fait raison, d'ailleurs. Ça a été au municipal. Ils mangent une méchante volée, les élus, souvent, parce qu'il y a une proximité. Et là, j'ajouterais ce que vous dites, ce dont vous avez parlé, il y a les citoyens durs envers les élus, mais il y a les élus entre eux aussi. Là. Il y a des conseils municipaux d'ambiance partout à l'Assemblée. Alors oui, c'est la grande crainte avec les vagues de démission qu'il y a eu, c'est de se dire qui c'est qui va être encore intéressé à faire ce métier de fou. Et évidemment, ça peut enlever des bonnes candidatures. L'avenir de notre démocratie.
Et voilà. Hey, on a-tu... Je rêve où la vice-première ministre du Québec, Geneviève Guilbeault, a parlé de SRB dans les dernières heures?
Elle en a parlé. En fait, ça s'est fait, ça, un petit développement, n'est-ce pas? Quand on a eu le projet de tramway, la CDPQ a présenté un grand plan cité qui prévoyait plusieurs phases. À l'origine, le gouvernement Legault a dit OK pour le tramway, mais la version, là, disons, minimale. Là. C'était l'espèce de colonne, là, légende, colline parlementaire vers Charlebourg. Et on s'arrêtait là pour l'instant. Mais là, ce qui se passe, c'est très technique quand même sur le plan, parlementaire. C'est que l'analyse du projet de loi 61, je nommerai pas trop de projet de loi, parce que je sais que les auditeurs vont s'endormir. Alors, en gros, c'est qu'on analyse la création de cette fameuse future agence Infra-Mobilité Québec. Et à travers ça, il y a d'autres amendements possibles sur d'autres projets de loi, dont la question du transport structurant à Québec, qui doit passer par une loi. Et pourquoi on parle de ça ce matin? C'est qu'hier, en commission parlementaire, Geneviève Guilbeault a amendé, dans le fond, la loi existante pour ajouter à ça la partie... Oui, on avait parlé d'un tramway de base, mais là, on ajoute potentiel une autre phase vers Destimoville et un service de SRB sur Charest. Donc, qui était un peu comme prévu, mais qui n'avait pas emballé le gouvernement sur le coup. On dit qu'on le met un peu par précaution. Ça sera fait si on décide éventuellement d'aller vers une deuxième phase. Donc oui, il a été question de SRB.
On a parlé aussi du 3...
C'est sûr, du jour de la marmotte, hein, Yann?
Ouais, ben, je veux dire, ça revient tout le temps. J'ai juste hâte qu'on avance dans ces dossiers-là puis qu'on se trouve d'autres choses à jaser. On a parlé aussi du troisième lien où on nous a dit qu'il y avait 23 entreprises. C'est ce qu'on peut lire dans le soleil de ce matin, là. 23 entreprises qui se sont montrées intéressées à réaliser le futur troisième lien Québec-Lévis. Elle dit que c'est un record d'avoir autant d'entreprises qui veulent participer à ce projet-là.
C'est intéressant parce qu'effectivement, on était tous un peu sceptiques aussi avec les soubresauts qu'a connu ce projet-là. On se dit, y a-t-il des entreprises qui vont vraiment lever la main? Ils voient que c'est un petit peu peut-être un panier de crabes. Est-ce que c'est une véritable promesse réalisable? Or, oui, il y en a eu 29 même au départ qui ont demandé des documents. 23 qui ont déposé les documents nécessaires, donc qui sont plus sérieux encore dans leur démarche. des firmes de génie, des entrepreneurs en construction, des firmes de gestion de projet. On comprend, Yannick, qu'on ne parle pas de 23 possibilités de consortium, là, dans le sens que c'est des gens individuels dans leur secteur d'expertise qui pourraient se mettre ensemble pour faire un consortium. Alors, c'est sûr que pour la ministre, c'est un grand pari, ça, de relancer constamment le troisième lien. De sentir de l'intérêt, ça doit quand même être soulageant. Du coup, ça montre que la démarche est peut-être crédible là, aux yeux de divers spécialistes, experts de la question. Mais évidemment, on est encore, là, on parle de 2028. En tout cas, l'appel d'offres nous donne quelques indices, mais ça demeure un projet à très long terme, à haut potentiel politique de recul advenant ce qui arrivera avec le gouvernement Legault et tout, mais quand même, on sent que oui, il y a un intérêt réel. Puis ça, c'est moi aussi, je suis la première surprise quand même. On pouvait penser, là, si t'arrives et ça intéresse deux, trois films, tu dis, oh boy, c'est un bon indicateur, disons. Prenons-le comme un indicateur de l'intérêt pour l'instant.
Parce qu'il y a un avis d'appel d'intérêt international qui avait été fait pour ce projet-là. Puis là, est-ce qu'on sait si c'est des films de Québec, du Québec, du Canada? Y en a-tu à l'externe? Je sais pas, moi, les Chinois ont-tu signalé leur avis? On n'a pas ça, cette information.
Je n'ai pas le détail, non, des soumissionnaires. On a plus par catégorie d'expertise. Là, mais non, on l'a effectivement. Ça n'a pas été peut-être que là, ça va sortir plus tard, mais pour l'instant, ce qu'on a, c'est vraiment le nombre.
Parce que oui, tu sais, comme tu le dis, Québec vise à commencer les travaux au plus tôt en 2028 pour les terminer autour de 2035, alors que le PQ, qui est bon premier là, à la grandeur du Québec, qui risque de remporter les prochaines élections, si rien ne change, lui, il ne veut rien savoir d'un troisième lien à Québec. Là. Donc, si la CAQ en veut vraiment un, il va falloir qu'on commence la première pelletée de terre à un moment donné puis qu'on dépense le plus d'argent possible.
Oui, exact. Pour faire cette troisième campagne électorale sur le même sujet ou d'avoir bouclé suffisamment avant, mais là, 2026, ça arrive vite. Là, t'sais. Puis la question qu'on se pose toujours dans ces grands projets-là, c'est jusqu'où t'as signé quelque chose qui te rend impossible de reculer. Et dans ce cas-ci, là, on est vraiment dans le long terme. Puis il reste un autre budget en mars. Hein. J'ai assisté la semaine dernière à la mise à jour économique. Le 11 milliards là, de déficit, il est encore 11 milliards. Donc là, on n'a pas chiffré encore le troisième lien. On évoque 8, 10, 11 milliards là aussi. Est-ce que la situation économique, la réalité, écoute, on a encore vu hier avec les menaces de Donald Trump, ça vient toucher tous les secteurs. C'est tellement d'incertitudes par rapport aux grands projets puis à tout ce qui coûte des milliards qu'effectivement, mais en tout cas, c'est pour ça là, qu'on reste prudent sur les chiffres, mais en tout cas, visiblement, il y en a qui seraient prêts à prendre le risque.
On se pose beaucoup de questions sur le Colisée de Québec. Est-ce qu'on le démolit? Est-ce qu'on le garde en place? Bruno Marchand voulait le démolir. Moi, je voyais peut-être un endroit où on pouvait faire à peu près le même modèle que les Trudeau font l'autre bord, c'est-à-dire des immeubles à condos, des logements à prix réguliers, là, peut-être un peu moins élevés que les autres, des entreprises, des restaurants, des endroits où que les gens pourraient avoir de grands parcs et tout ça. Là, on nous parle d'un musée. Il me semble que je ne suis pas emballé par ce projet-là. Puis encore une fois, ça va-tu être, d'après moi, ça va être quelque chose de déficitaire là, qu'on va devoir entretenir.
On est vraiment là au stade d'idée. Moi, je reviens de là. Yannick, j'allais ce matin par. Évidemment, ça attire la curiosité. C'est quand même là une idée citoyenne. Il faut remettre ça en perspective pour ce que c'est. Cela dit, le fond de la question, l'idée est bonne. On parle de le musée des transports, du génie québécois. Le Québec a été pionnier dans l'aviation de brousse dans le Nord, évidemment Bombardier. On a Prévost-Cœur qui a 100 ans cette année. Toute l'histoire des transports, et ça, c'est des tripeux de l'histoire du transport ce matin qui nous ont fait leur proposition. Mais il est un petit peu minuit moins une aussi. C'est un des éléments parce que là, tu disais démolition, des projets, logements, multifonctions. C'est pas mal ce que l'administration Marchand a en tête présentement. Là, il y a la commission d'urbanisme jusqu'au 20 décembre. Alors, nos gens là, qui auraient un musée à promouvoir, là, disons que le temps file. Là, parce que ce serait de dire, OK, on stoppe les machines sur la réflexion vers une démolition, puis on reconsidère un projet. Ils sont bien conscients qu'ils arrivent tard un peu avec ça, mais quand même, moi, quand les citoyens donnent des idées, quand on fait rêver un petit peu, pourquoi pas, mais effectivement, c'est je pense qu'on est tous très réalistes. Cette idée d'avoir des vocations, c'est ce qu'on appelle un peu récréo, touristique, culturel, du logement social, du condo, des entreprises, c'est sûr que le pôle, pour moi, c'est tout indiqué aussi. Tu as le Grand Marché, tu as le Centre Vidéotron, il y a de plus en plus d'accès. Il y a tout, justement le développement des Trudelles qui vient créer cette espèce de pôle sous-monde. Tout le secteur Amel, ça, c'est vraiment un gros potentiel.
Parce que le grand marché, qui vire pas comme on pensait qu'il allait virer, il bénéficierait justement de la construction d'immeubles à condos, mettre des restaurants, des parcs à cet endroit-là. Je veux dire, tout le monde bénéficie. Voyons, j'ai de la misère à le dire un matin. Tout le monde serait bénéficiaire de ça.
Ah, absolument. Puis j'imagine pas, là. Mettons qu'on est dans un monde là, où on dit waouh, on garde le Colisée, on y fait un super musée national qui attire les gens. C'est ce matin comparé, mettons, un des exemples qu'ils ont donné, les promoteurs de ça, c'est pas fou, là, mais ça reste difficilement réaliste. Mais en tout cas, ils disent, tu sais, après les Olympiques de Montréal, il y avait le vélodrome. On savait pas quoi en faire. Il y a eu une réflexion, ça a donné le biodôme. Bon, oui, une infrastructure sportive convertie, c'est intéressant, mais ça pourrait pas rester dans l'état actuel. Mais en même temps, le Colisée, les frais de démolition, on le sait, on parle de quasiment 20 millions juste à démolir. Tu sais, est-ce qu'il y a... On le sait pas. Moi, je pense pas qu'il va rester grand-chose entre nous. Je pense que la ville a fait son nid là-dessus. Puis après, ce sera qu'est-ce qu'il y aura comme développement. Mais c'est un spot... On n'a pas le choix. Crise du logement, tu peux pas laisser une marée de parking vide de même. C'est du gaspillage.
Puis ça revitaliserait ce coin-là aussi.
Absolument.
OK. On voulait parler de la transparence du RTC. Tu voulais revenir là-dessus?
Ben oui, ben je trouvais intéressant quand même ma collègue Émilie Pelletier là, qui avait... fait la demande la semaine dernière, à savoir la fameuse taxe sur l'immatriculation. Puis il y a comme eu deux dossiers en parallèle. Il y avait la taxe d'immatriculation, ça a fini par être 60 $. Qu'est-ce que la RTC a proposé? Tu sais, on a essayé de savoir. Puis je comprends que c'est des discussions, c'est des hypothèses, c'est pas toujours disponible. Mais tu sais comme moi, il y a un peu de chaleur sur la RTC présentement. Il y a eu beaucoup d'éléments depuis plusieurs semaines. Alors, on a fait la demande et c'est impossible de savoir quelles ont été les hypothèses. On dit non, le choix politique, c'est 60. De toute manière, quand même, on en saurait plus. C'est ça qu'on a arrêté.
Ouais.
Et il y a eu aussi l'opposition officielle de Claude Villeneuve qui a fait une demande d'accès à l'info, dont on a parlé dans Le Soleil aussi, qui lui demandait quels étaient les autres scénarios. Qu'est-ce qui avait été étudié avant de ramener à la ville le Flexibus? Hein? On parlait... Actuellement, c'est exploité par Texcoop, donc un sous-traitant. Là, on va le ramener dans deux ans à la ville. Donc là, est-ce qu'on sait si le privé était si moins intéressant? Pourquoi? Et là aussi, il n'y a pas eu lieu là, d'avoir beaucoup de détails là-dessus. Alors, c'est comme deux demandes d'accès en même temps qui, je pense, se traduisaient. Puis bon, après, on dit non, on peut pas, c'est des hypothèses, mais ça reste que la RTC... gagne avoir de la transparence parce que sur le plan de la communication, tout ça, ça n'a pas été particulièrement facile ces derniers temps.
Ouais.
Mais on ne le saura pas. La ville nous dit non.
Mais ta collègue, là, Émilie Pelletier, est-tu un peu comme nous autres? C'est-à-dire que le maire nous explique quelque chose, puis il utilise ses propres mots, il ne met pas les mots dans la bouche, puis après ça, ben, il nous dit « ouais, mais c'est parce que vous n'avez pas compris. »
Ah oui.
Elle fait-tu partie de cette gang-là aussi, ta collègue?
Je dois en faire partie aussi, parce que la semaine dernière, j'avais une chronique où je disais les mauvaises et dures séquences pour la RTC.
Oui.
Quand on nous explique quelque chose, on est une gang de journalistes qui suit le maire à la trace. On était plusieurs. Émilie est bonne pour remettre en perspective les citations et surtout dire, ben attendez, vous nous avez dit ça, puis c'est ça la force de quelqu'un comme Émilie Pelletier, comme tous les collègues en Québec, on le dit souvent, on a une couverture municipale hallucinante, là, presque autant qu'au Parlement, là, tu sais, à plusieurs égards, et c'est la mémoire des journalistes. Non, tu nous as pas dit ça la semaine passée, je vais te sortir le tape, et ça, ben c'est aussi ce qui crée le fait d'être constamment dans le même dossier, c'est que les journalistes aussi conservent une mémoire. Donc, quand on nous dit qu'on a mal compris, ben, on est capable de dire, ben, désolé, mais c'est pas de même que ça avait sorti.
Ben ouais. Mais Valérie, ce que vous lui avez mentionné, c'est, tu sais, c'est, puis ce qu'il disait, c'était le contraire de ce qu'il avait dit en intégrale sur les ondes de boulevard la veille, tu sais. Puis après ça, il nous dit, ah, mais vous comprenez pas. Non, non, t'es peu, tu nous as dit le contraire.
Ouais.
Cet argent-là allait servir à quatre services et non à aller sur la dette du RTC.
Exact, exact. Mais c'est pour ça que je disais, tu sais, le montant de la taxe, tout ça, ça s'ajoute, mais c'est comme une séquence au RTC, puis j'ai l'impression qu'avec toute cette espèce de boulet un peu des derniers mois, depuis l'audit, depuis, tu sais, les réactions, le choix, tu sais, on en parlait la semaine dernière ensemble, Yannick, tu sais, t'affiches 11 postes, 4 postes de cadre, alors qu'on est en train de réfléchir sur le nombre de boss au RTC. Tu sais, il y a eu des question de communication, jugement, on sait pas trop, mais disons que c'est pas facile de se passer de la CC. Donc, les occasions, je pense, d'être le plus transparent possible, évidemment, il faut les saisir.
Est-ce que tu t'es booké une game de curling avec Pascal?
Écoute, est-ce que Pascal est un amateur de curling?
Non! J'ai joué une fois et j'ai trouvé que j'avais aucun bras assez fort pour soutenir le balayage.
Falloir vous rentabilisiez ça, les filles.
Allez, on va se partir une ligue, on va aller jouer 5 fois par semaine pour rentabiliser. Oui. Mais blague, ça fait partie de la réflexion de ce matin parce qu'on a parlé du curling, c'est pour la première fois, ça fait une semaine. C'est juste que moi, j'ai parlé à des gens dans les derniers jours et il y a une chose qui n'a pas passé dans les proches de Régis Labeaume, de l'ancienne administration, il dit c'est pas vrai qu'on avait promis un centre de curling. Ce que disent ces gens-là, puis plusieurs, quand même plusieurs sources, ils m'ont dit que Marchand fonce avec un centre de curling, 39,5 millions payés par la ville, à la limite son choix politique. Mais ce qu'a fait bondir, c'est qu'il a dit en point de presse, puis ça, évidemment, on a le tape encore là, c'est qu'il a dit. Cette promesse-là, elle a été faite, elle a été reniée. Nous, on fait la promesse. Or, ce qu'on dit, c'est que non, ça a été étudié, un centre de curling, avec d'autres sports, tout seul, et c'était pas viable. Il n'y avait pas peut-être ce bassin, on n'a pas décidé à l'époque que c'était le sport d'avenir. Et là, ben, Bruno Marchand le fait, qu'il le fasse, mais on n'a pas beaucoup aimé qu'on parle de promesse rompue, parce que ça ne s'est jamais rendu loin à l'époque de Régis Labeaume. On trouvait ça trop risqué. Et là, on fonce tête première avec notre pierre vers la cible.
Oui, parce que la première mouture, c'était curling, pétanque et pickleball.
Exact. Ouais. Ça, c'était la promesse septembre 21 de Québec, Force et Fière, le parti du maire, lorsqu'il n'était pas le maire encore. C'était la promesse. On dit que finalement, le pickleball s'est développé beaucoup, puis c'est vrai. A été beaucoup développé, notamment par le privé. Après ça, pétanque, on ne sait pas où c'est passé. Mais là, on s'en vient 100%. Et l'autre couche, c'est quand même une question que je soulève de nouveau ce matin. C'est quand même pourquoi le gouvernement du Québec a dit non à ce projet-là d'infrastructure. Il y a les Jeux du Canada, il n'y a pas une scène fédérale présentement. C'est correct qu'on aille de l'avant, mais c'est quand même gros pour un sport aussi niché que le curling. Ça n'a pas un point d'emploi. Regarde, j'ai pas les analyses de marché, je suis pas experte, là, mais c'est sûr que si tu parles de pickleball, par exemple, ça n'a pas été étonnant que ça soit si populaire. C'est un sport, j'ai joué hier soir, d'ailleurs, à Charlebourg au pickleball, c'est un sport qui touche plus de générations, ça joue dans les gymnases, ça se développe dans des centres privés. Il y a un potentiel. Curling, ça demeure quand même assez pointu.
Puis, pour ce qui est des Jeux du Canada, là, c'est quoi, c'est 2027 à peu près?
Oui, hiver 27.
Il parlait de retombées économiques de plus de 100 millions de dollars. C'était vrai, ça?
115 millions, moi, là, je suis tellement sceptique des retombées, là. On donne l'argent aux Kings, on dit c'est retombé. On finance des Grands Prix à Montréal, on dit c'est retombé. Bien sûr que ça crée une activité, c'est des athlètes, des accompagnateurs, c'est une notoriété. Mais, tu sais, c'est toujours difficile. Je doute pas. On parle que les derniers avaient été quelque chose comme 120 millions de retombées. Mais ça reste toujours hypothétique. T'sais, on peut dire ça, puis on le souhaite. Mais c'est sûr que c'est un gros événement. Puis Québec est arrivé pour les sauver un peu à la dernière minute, une candidature un peu... On a quand même ce qu'il faut pour les accueillir. Le centre de curling, est-ce que c'est nécessaire pour les Jeux? On dit on en profite, mais là, ce que Bruno Marchand dit souvent... C'est, moi, t'enlèves les Jeux demain matin, je le construis pareil. Donc, il a décidé qu'il allait sur le curling. Puis, comme Régis Labeaume avait en tête un centre de glace avec des anneaux, comme il y avait l'amphithéâtre, comme un peu chaque administration, peut-être que Bruno Marchand était un peu à l'époque du legs, veut avoir un projet en chantier et tout ça sur fond de Jeux du Canada. Mais les retombées, pour répondre à ta question, ça demeure, je doute pas que ça va être dynamique, mais ça demeure toujours difficile. À faire des investissements au nom des retombées, on pouvait sortir bien des chiffres, je pense.
Madame Godreau, on vous reparle la semaine prochaine. D'ici là, on vous lit dans le soleil.
Sans faute, merci, grand plaisir.
Salut, bonne journée.
Bye, Valérie Godreau du Soleil, notre chroniqueuse avec qui on aime bien jaser une fois par semaine. Sinon, dans l'actualité, Pascal, c'est quoi les grosses nouvelles qui sont tombées dans les dernières heures?
Pascal peut apprendre que la grève chez Postes Canada n'est pas suspendue, mais la médiation, oui, ça veut dire solidarité, on picte encore, sauf qu'on arrête les négociations. Pourquoi? Ben, on a comme l'impression que tout le monde reste sur sa position, fait qu'on n'avance pas. Tant que la médiation sera de ce type, on ne se réassira pas autour de la table pour justement faire avancer ces négociations-là. On veut une nouvelle détermination, on veut qu'elle soit renouvelée. C'est pourquoi on met ça sur stand-by et on attend que les parties, soit le patronat, le syndicat, réévaluent leur position pour ensuite revenir, moi ça me ferait, comme des adultes autour de la table. Tiens, c'est pas les mots qui ont été employés, mais c'est un peu ce qu'on peut lire entre les lignes. Vous savez qu'il y a des milliers de personnes qui travaillent chez Postes Canada qui font la grève en ce moment, voilà pourquoi. Passeport, tout ce qui est revenu Québec, tout ce qui est revenu Canada, tout ce qui est livré normalement par Postes Canada, puis là on parle du côté administratif, mais les lettres au Père Noël aussi, se rendent un petit peu moins au Pôle Nord ces temps-ci. Ça, c'est malheureusement arrêté.
On dit que les réponses du Père Noël cette année, il y a plus de fautes qu'il y en avait avant.
Faudrait que je vois. J'ai pas évalué la chose. On fera peut-être un sondage là-dessus. Mais la grève nationale des employés de Post-Canada en est à son 13e jour et c'est fait pour continuer. Alors, on pense aussi à tous les commerces qui doivent revoir leur façon d'expédier ce qui est commandé, entre autres pour le Black Friday qui est vendredi. Yannick, on s'attend peut-être à une recrudescence justement de livraison, mais il y en a qui ont demandé de forts prix, soit des services de livraison alternatifs pour être capable de pallier à tout ça. Sur le tramway, on vient d'en parler. Je vous rappelle rapidement que la ministre Geneviève Guilbeault va plus loin que prévu. Si vous avez manqué le début de la chronique avec Valérie Gaudreau, on a appris que dans ce dit projet-là, on vient de s'entendre pour qu'il y ait une antenne à Destimoville et un retour du fameux SRB sur le boulevard Charest. Donc, on repimpe un peu ce projet-là. Pour le projet de budget 2025 à Lévis, attachez votre sucre si vous habitez du côté de la Rive-Sud parce qu'on a une proposition et non une acceptation, mais une proposition de hausse de taxes de 3,3 %, ce qui peut faire mal pour plusieurs budgets. On a tranché sans possiblement qu'avec l'augmentation record de 7,7 % qui avait été enregistrée en 2024, ben on irait peut-être avec une taxe foncière et tarif de 3,3 %. C'est sûr que vous pouvez vous faire entendre en ce moment, mais c'est ce qui est avancé. Du côté de la presse, les gros dossiers pour aujourd'hui, bien sûr, c'est un peu ce que je viens de vous dire. Sinon, Mme Risky prend un carrément de vitesse. Elle dépose un projet de loi. Marois Risky, qui risque de quitter la politique, se fait parler. Non au site d'injection près des écoles. Donc, c'est une nouvelle négociation qui se fait du côté de l'Assemblée nationale. François Legault s'y fait jaser. Il a demandé à Trudeau de rassurer les PME, les entreprises et surtout à Justin Trudeau de rassurer Trump, comme quoi on aura un genre de resserrement du côté des secteurs où on est capable d'immigrer également du côté des États-Unis de part et d'autre, parce que vous le savez, Donald Trump a avancé une taxe douanière de 25 % au Canada aussi, en Chine, Mexique, mais pour le Canada, c'est 25 % également, parce qu'on souhaite qu'il y ait moins d'immigrants illégaux qui traversent la frontière.
Moins de fentanyl.
Et on souhaite également qu'ils arrêtent de passer de la drogue lors de ces passations aux frontières.
All right, sinon, défaite du Canadien 3-2 en prolongation.